Alors. Super, merci. Alors ce matin, on va s'arrêter sur une nouvelle prière. Alors on a déjà vu plusieurs prières, hein. On est dans un enseignement sur la prière depuis plusieurs dimanches. On a déjà vu une prière, la prière de Néhémie, la prière de Marie, celle d'Aaron, celle des premiers chrétiens, celle de Paul. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur la prière du Seigneur Jésus-Christ en Jean 17. Alors Jean 17 est une des rares prières de Jésus au Père dont nous avons le détail. Le Notre Père de Matthieu 6, par exemple, est plutôt un modèle de prière qu'il enseigne à ses disciples. Jean 17 est assez unique car il nous renseigne sur comment Jésus priait le Père lorsqu'il était sur la terre. Cela nous montre comment Jésus priait et également ce que Jésus voulait que ses disciples entendent avant de partir. Le contexte de Jean 17, c'est Jésus qui parle aux 11 avant la fête de la Pâque lors d'un discours d'adieu qui commence en Jean 13 avec le lavage des pieds, avec la trahison de Judas, avec l'annonce du reniement de Pierre, la promesse de l'envoi du Saint-Esprit, la parabole du cep et des sarments, et l'importance de demeurer en Jésus, et l'annonce de son départ. C'est donc, Jean 17, une sorte de transition, car elle se situe à la fin du ministère terrestre de Jésus-Christ, on est juste avant la croix, et quelque part le début de son ministère d'intercession, et on peut lire ça en Hébreux 7, c'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc on est vraiment dans une phase de transition. Et je vais demander à ma meilleure moitié de venir pour lire tout le chapitre de Jean 17.
Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le Fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux.
Merci beaucoup. Cette prière de Jean 17 a été appelée la prière sacerdotale. Sacerdoce signifie ministère. Ainsi, la prière sacerdotale fait référence au ministère du souverain sacrificateur sous l'ancienne alliance. Jésus-Christ fait office de souverain sacrificateur qui prie en faveur des saints et qui prépare son propre sacrifice à venir, c'est-à-dire lui-même, et d'une certaine manière met en place le ministère des disciples, puis des croyants, c'est-à-dire le sacerdoce universel. C'est donc une prière de conclusion de son ministère et aussi d'envoi de ses disciples. Jésus, il y a trois parties dans cette prière, les versets 1 à 5, Jésus prie pour lui-même. Ensuite, des versets 6 à 19, il prie pour ses disciples, et enfin, pour tous les croyants, versets 20 à 26. Dans ce chapitre, il y a plus de 40 thèmes qui sont abordés par Jésus. Et je vous propose de tous les voir en revue, 25 minutes chacun. Donc dans ce chapitre, il y a de nombreux thèmes. On voit aussi que Jésus résume l'évangile de Jean et sa mission sur terre. Alors, ce matin, je vous propose simplement qu'on puisse aborder comment et pour quel sujet prie Jésus. Comment et pour quel sujet prie Jésus. Alors, le comment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus a une attitude physique. La première chose qu'il fait, c'est qu'il lève les yeux au ciel. Alors bien sûr, Jésus était sur terre, mais c'est quelque part aussi une attitude de soumission. Une attitude de quelqu'un qui s'adresse à une personne qui est au-dessus et qui règne. Je ne sais pas comment vous faites certaines fois, mais je vous encourage à pratiquer les prières flash. Vous savez ce que c'est les prières flash? On parle souvent des prières pop-corn dans l'assemblée, où chacun peut courtement exprimer sa reconnaissance, mais les prières flash, c'est les prières dont on a besoin au moment où votre enfant vous pose une question, où vous savez pas comment vous allez pouvoir répondre. Ou alors au moment où vous êtes face à un objecteur ou à quelqu'un qui vous veut vraiment du mal, et là vous avez vraiment besoin d'une prière flash pour solliciter l'assistance du Seigneur. La deuxième chose, c'est que Jésus se base sur la relation qu'il a avec son Père. Jésus se base sur la relation Père-Fils qu'ils ont ensemble. On peut remarquer l'intimité, on peut remarquer l'obéissance, la soumission, l'amour, la complémentarité entre le Père et le Fils. Jésus prie en s'appuyant premièrement sur tout ce qui a déjà été accompli. Dans le passage, j'ai compté 42 verbes au passé. Jésus prie en s'appuyant sur ce qui a déjà été accompli par le Père et le Fils. Deuxièmement, Jésus prie en se basant sur ce qu'il connaît du Père, pour demander, par exemple, la protection, pour demander la glorification, tout ce que Jésus sait que Dieu est capable de tenir, parce qu'il le connaît. Troisièmement, Jésus prie en faisant une confiance aveugle pour la réalisation des choses futures. Sur quoi je me base pour prier ? Est-ce que je me base sur mes peurs, sur mes doutes, ou est-ce que je me base sur ce que je connais de Dieu et de Jésus-Christ pour prier ? Le mot « connaître » en Jean 17 se comprend non dans un sens de « savoir », mais plutôt dans celui d'une relation d'intimité. On retrouve ce mot comme en Genèse 4 au verset 1, quand Adam connut Ève. Connaître renvoie donc à une relation homme-femme, une relation de confiance mutuelle, de support, de protection, de communication, une relation qui porte du fruit et qui nous permet d'aller plus loin. Ainsi, connaître Dieu, c'est avoir une relation de confiance avec celui qui donne. 10 fois dans le texte, le Père donne généreusement. Donc connaître Dieu, c'est avoir une relation de confiance avec celui qui donne, celui qui veut le meilleur et celui qui a tout pouvoir. Quelle assurance d'adresser nos prières à un Dieu qui veut être si proche de nous. Alors maintenant qu'on a vu quelques aspects du comment, je vous propose de nous arrêter sur les sujets pour lesquels prie Jésus. Premièrement, il prie pour la glorification du Fils. Jésus prie tout d'abord pour lui. Enfin, pas exactement. Jésus-Christ réclame sa glorification pour que Dieu soit glorifié. Et j'ai trouvé ce terme de glorification un petit peu compliqué à saisir. Alors je vous propose une définition que nous donne Timothy Keller. Glorifier quelque chose ou quelqu'un, c'est le louer, l'apprécier, éprouver de la joie à son contact. Quand quelque chose est utile, vous êtes attiré par ce qu'il peut vous apporter. En revanche, si quelque chose est beau, vous l'appréciez simplement pour ce qu'il est. Être en sa présence vous suffit. Glorifier quelqu'un, c'est également le servir ou s'incliner devant lui. Au lieu de sacrifier ses intérêts pour votre bonheur, vous sacrifiez les vôtres pour son bonheur. Pourquoi ? Parce que votre joie suprême est de voir sa joie. Si quelque chose est beau, vous l'appréciez simplement pour ce qu'il est. Être en sa présence vous suffit. Dieu est beau, Dieu est grand. Jérémie nous l'a rappelé ce matin. Et être en sa présence peut nous combler. Glorifie ton Fils ou révèle ta gloire selon les versions. Le sacrifice à la croix et la résurrection du Fils va opérer le rachat et le salut du péché de millions d'hommes et de femmes dont nous faisons partie. Jésus va donc être glorifié au travers de très nombreuses générations, mais Jésus souhaite, par son œuvre, à la croix, rendre cette gloire à son Père, qui est le concepteur et l'initiateur de ce plan de salut pour chacun d'entre nous. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Si le Fils a rendu gloire à Dieu de son œuvre à la croix, à plus forte raison, n'oublions pas de rendre gloire à Dieu dans ce que nous avons reçu. Notre salut, bien sûr, mais aussi nos capacités, nos facilités, nos succès, notre argent, etc., etc., etc. Et n'oublions pas que nous le devons à Dieu. Quelqu'un a dit, on a vraiment achevé sa vie lorsqu'on a vécu pour la gloire de Dieu, quel que soit son âge. Ce qui compte le plus dans la vie, c'est glorifier Dieu. Ce que nous faisons dans la vie résonne dans l'éternité. Vous savez d'où vient cette citation, n'est-ce pas? De Gladiateur. Plus sérieusement, quand je vis pour et par Dieu, ce que je fais a un impact dans l'éternité et porte un fruit qui me dépasse. Donc ce que nous faisons pour et par Dieu a une résonance dans l'éternité. Jésus prie premièrement pour sa glorification, il prie ensuite pour les vrais disciples, à partir du verset 9. Il prie pour les disciples authentiques, ceux qui croient en lui. Dans les évangiles, on voit à plusieurs endroits que plusieurs personnes vont arrêter de suivre Jésus. Là, il prie pour les vrais disciples. Je ne sais pas si vous savez, mais 89% des gens dans le monde croient en un Dieu. 89% des gens dans le monde croient en un Dieu. Mais peu croient en Jésus-Christ envoyé par Dieu pour le salut des hommes. Les vrais disciples, dans le texte, ce sont ceux qui ont reçu les paroles, qui ont connu qui était Jésus et qui ont cru que Jésus avait été envoyé par Dieu. C'est intéressant de souligner qu'il n'y a pas d'allusion au manquement. Quelques heures après, ils vont renier. Pierre va renier. Jésus ne fait pas allusion aux défauts, aux manquements, ou bien au mérite, mais simplement au fait de croire, mais simplement le fait de croire fait d'eux des disciples de Jésus. Ensuite, il va prier pour leur protection. Jésus va partir et au lieu de s'inquiéter en leur disant quoi faire ou ne pas faire, leur donnant des listes, il les remet au Père avec confiance et sérénité. Il sait que le Père est pleinement capable de les garder des trois grands dangers de la vie chrétienne, le monde, le diable et la chair. Jésus prie, premièrement, pour leur protection vis-à-vis du monde. C'est intéressant de souligner que Dieu nous laisse dans le monde, mais nous veut différents du monde. Et beaucoup de personnes se sont trompées et sont allées se mettre en haut des montagnes ou dans des endroits déserts, dans des monastères, pour sortir du monde. Mais Jésus nous laisse dans le monde, mais nous veut différents du monde. Le monde ici, c'est l'éphémère, le matériel. Mais c'est aussi et surtout l'esprit du monde qui nous invite à faire sans Dieu. Jésus dit que quand il était là, il pouvait leur rappeler, il prenait soin d'eux. Mais comme il ne sera plus là, c'est sa parole qui va prendre ce rôle. Et pour nous aussi, nous pouvons nous laisser entraîner par les envies, les pensées, les raisonnements du monde. Et seule une lecture régulière de la Bible, qui sont les paroles même de Dieu, nous resynchronise avec le Père. D'où l'importance, dimanche après dimanche, où on répète cette importance de se resynchroniser grâce à la parole avec le Père. Deuxième chose, ils prient pour leur protection vis-à-vis du malin. Le diable veut nous influencer, mais Dieu nous garde par son esprit. Et on lit ça en 1 Pierre 5, au verset 8, « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Nous sommes gardés par Dieu. Dernier aspect, leur sanctification. Jésus prie pour leur sanctification. Se sanctifier ou se consacrer, selon les versions, c'est se mettre à part pour un usage précis. Se consacrer à Dieu, c'est donc faire uniquement ce qui plaît à Dieu et refuser tout ce qui lui déplaît. C'est se consacrer jour après jour à son service, grâce à la parole, en refusant de livrer nos membres à la gloire de la chair pour les livrer à la gloire de Dieu. Et heureusement, pour ça, nous ne sommes pas seuls. Jésus va dire, je me sanctifie moi, afin qu'ils soient sanctifiés. Notre sanctification est rendue possible grâce à Jésus-Christ qui a été mis à part à la croix, pour que nous puissions nous mettre à part pour lui, en nous appuyant sur la puissance de résurrection de la croix. Jésus-Christ a été mis à part pour que nous puissions nous mettre à part grâce à la puissance de la croix. Dieu est donc pleinement capable de nous garder du monde, du diable, et de nous mettre à part pour son service qui s'opère premièrement dans nos vies. Jésus prie ensuite pour l'unité de tous les croyants. Et là, il prie directement pour chacun d'entre nous. L'unité entre tous les croyants est un thème qui revient et revient et revient. À d'autres endroits, il est parlé de l'édifice qui est l'addition de chacun des croyants, du corps, de l'épouse. L'unité est à vivre sur terre, mais reste imparfaite, et nous pouvons encore nous blesser parfois. Et je nous encourage à ne pas être surpris de l'imperfection de nos liens fraternels. On pourrait aussi se poser la question, avec toutes les dénominations qui existent, est-ce que Jésus a vraiment été exaucé ? Jésus ne compte pas sur les efforts humains des apôtres ou des croyants. D'ailleurs, les apôtres se disputaient pour savoir qui était le plus important parmi eux. Jésus ne compte pas sur les efforts humains, mais compte sur le Père. L'unité chrétienne n'est pas l'œuvre des hommes, mais de Dieu lui-même. Ce texte nous montre que nous pouvons être unis par l'intermédiaire de Christ. Verset 23, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » En fait, c'est Dieu en chacun des croyants qui opère l'unité. L'unité chrétienne ne se situe pas tant sur le plan horizontal, mais sur le plan vertical. En fait, chacun d'entre nous, nous sommes reliés au Seigneur et par lui aux autres. Quelqu'un a dit, Souvent, nous nous donnons beaucoup de peine pour jeter des ponts là où il faudrait plutôt dresser des échelles. Le baromètre de ma relation avec Dieu est mon degré d'entente avec les autres. Le baromètre de ma relation avec Dieu est mon degré d'entente avec les autres. Quand ça ne va pas avec les autres, je dois vérifier ma relation avec Dieu d'abord. Jules Marcel Nicole, à une autre époque, prenait l'exemple de l'abonné téléphonique qui ne pouvait pas communiquer avec un autre. La première chose qu'il devait faire, c'était appeler le réseau central pour savoir s'il était bien relié. Le baromètre de ma relation avec Dieu est mon degré d'entente avec les autres. Ensuite, Jésus va prier pour le témoignage des croyants. Qui se base, donc au verset 21, pour que le monde croie, et au verset 23, pour que le monde connaisse. Et ce témoignage se base sur deux éléments, l'unité et l'amour. Et l'unité des croyants qui se manifeste, c'est une église qui s'aime, qui se blesse parfois, mais qui se pardonne, et qui agit avec bienveillance. Et cela touche, cela interpelle. Il n'y a que Dieu, par son amour en nous, qui peut apporter l'unité entre des créatures imparfaites. Vous êtes déjà posé la question de ce qui faisait la différence entre l'Église et une association de parents d'élèves ou de clubs de foot ou autre. Il n'y a que Dieu, par son amour en nous, qui peut apporter l'unité entre des créatures imparfaites. Aujourd'hui, c'est le jour de notre Assemblée Générale. Et si on prend l'exemple de Sonra, il nous a été rappelé que dans 2 ans, en 2022, ce rassemblement va fêter ses 100 ans. 100 années d'association entre des créatures imparfaites. Et alors cet après-midi, on va parler d'avenir. Mais il est bon de commencer par se rappeler du passé. Est-ce que tout a toujours été idyllique? Est-ce que ça a été la petite maison dans la prairie, tous les jours? Je regarde nos plus anciens. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais plusieurs générations d'hommes et de femmes ont reçu et cru les paroles du Père. Ont reconnu le Christ et ont vécu unis grâce à l'amour dont ils étaient aimés. Et chacun a commencé par lui-même, en réalisant cette citation de Catesby Paget. « Je suis tellement cher aux yeux de Dieu, je ne peux être plus cher. L'amour dont il aime le Fils est celui dont il m'aime. » Et c'est ce que Jésus dit. L'amour dont Dieu aime le Fils est l'amour dont il aime chacun d'entre nous. Et je rajoute, c'est aussi l'amour dont il aime mon frère et ma sœur. Notre semaine Vie ta ville du mois de juillet reflète notre volonté, non pas d'attirer des gens dans notre sympathique rassemblement, mais d'attirer des gens auprès de Jésus-Christ, qui est l'auteur de notre rassemblement, celui qui nous aime et qui nous lie tous les uns aux autres. Le dernier sujet, c'est que Jésus prie pour l'avenir. Il prie pour l'espérance et la destinée glorieuse de tous les croyants. C'est la promesse de la vie éternelle et c'est la promesse d'être en sa présence, de voir sa gloire. Et cela est une certitude on ne peut pas perdre la vie éternelle. C'est pas possible. C'est pas possible car c'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous garde jusqu'à la fin. Aucun enfant de Dieu ne peut se perdre. Et c'est une certitude. Nous allons voir la gloire du Père. Quelle espérance! Dans les choses difficiles d'aujourd'hui, chérissons le fait qu'un jour nous serons dans la gloire du Père. Alors pour conclure, je trouve que cette prière de Jésus, de Jean 17, est une formidable lettre de mission pour chaque croyant, maillon d'une grande chaîne qui a commencé avant nous et qui va continuer. Mais c'est aussi une formidable lettre de mission pour nous en tant qu'église locale. Alors pour résumer ce texte qui est très dense, je vous propose un schéma imparfait là aussi, puisqu'il vient d'une personne très imparfaite que je suis. Mais on a vu dans ce texte la relation et l'unité entre le Père et le Fils. On a vu que le Fils a fait connaître aux disciples le Père par son œuvre et par sa parole. Et que ses disciples ont pour mission maintenant d'aller faire connaître aux croyants qui est le Fils, qui est le Père et d'être en relation avec le Fils. Et tout ça, ça représente cette unité dont nous parle le texte. Ensuite, il y a quelques virages à faire, quelques embûches, mais nous voyons que le monde, effectivement, a haï les croyants. On voit que le diable aussi essaye de nous influencer, mais que nous sommes protégés quand nous restons dans cette unité. Et le but, c'est qu'il y ait des personnes qui se posent des questions et qui soient attirées et qui viennent devenir aussi croyants à leur tour. La prière sacerdotale nous renvoie à la gloire qui vient de la croix, à la possibilité de connaître et de prier le Dieu créateur du salut, à la protection efficace contre tous les dangers qui peuvent être sur notre route, à notre consécration à son service et à vivre l'unité rendue possible en Jésus-Christ qui témoigne de l'amour de Dieu et attire d'autres croyant à lui. Dernière image que vous avez tous vue, je pense. Cet hôpital chinois monté en 10 jours. J'ai pas compté le nombre de tractopelles. Je connais un grand conducteur de tractopelles devant l'Éternel, là-bas à ma droite. Mais là, il y en a un paquet, là. Quand ils sont un, ça va, ils arrivent à se coordonner. Mais quand ils sont comme ça, là, il y a une coordination, j'imagine, nécessaire. Et une unité autour d'un objectif commun. Imaginons les possibilités quand nous sommes unis pour Dieu et par Jésus-Christ pour lutter contre le virus du péché. Et que notre carburant n'est pas la crainte, mais que notre carburant est l'amour de Dieu pour son Fils qu'il déverse sur ses enfants. Amen. J'aimerais prier. Père Céleste, merci encore pour ta parole. Merci pour ces certitudes que nous pouvons chérir. Merci pour tout ce que tu as accompli à la croix. Merci pour la volonté du Père de nous sauver, de nous faire grandir. Merci aussi parce que sur le chemin de sanctification, nous ne sommes pas seuls et nous pouvons nous appuyer sur ta puissance. Merci aussi parce que demain, l'avenir sera glorieux. Nous serons en ta présence et cela nous suffira. Amen.